cet après-midi, je vous propose de parler un petit peu de l'intimité avec les enfants. Le décliner sur le côté enfant. Quelle est la qualité du dialogue que je cultive avec mon enfant? Si l'intimité, c'est la capacité à risquer une partie de ce que je vis avec mes proches, quelle est l'intimité que j'ai avec mes enfants? On entend parfois des grands-parents ou de parents de grands-enfants, en tout cas, qui disent « Mon fils ou ma fille, elle a 20, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas trop ce qu'elle vit parce qu'elle ne me dit rien. Elle ne partage pas ce qu'elle vit. » Et souvent, on sent une souffrance chez ces parents-là parce que ils sont quand même beaucoup donnés pour l'éducation de leurs enfants. Et puis, en fait, il n'y a pas trop de retour sur investissement derrière au niveau d'une qualité de relation derrière. En fait, la capacité à se dire et à établir une relation d'intimité avec ses enfants se travaille dès l'enfance. Est-ce que mes enfants peuvent dire ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils peuvent partager leurs ressentis, leurs angoisses, leurs joies, leurs peines, leurs difficultés auprès de moi avec une écoute attentive, sans jugement, sans solution toute faite, tout simplement avec un cœur d'accueil, une écoute gratuite de ce qu'ils vivent au profond d'eux-mêmes. Un jour, je vous raconte une petite anecdote personnelle, mais un jour, ma fille aînée avait fait une bêtise et je l'avais grondée, du coup, elle était fâchée. Comme souvent font les enfants, ils manifestent qu'ils sont fâchés en... Je prends surtout des exemples que je connais, c'est-à-dire entre 0 et 10 ans, hein, mais au-dessus, je n'ai pas encore, donc je préfère partir de choses concrètes, peut-être que... Mais je pense que ça joue aussi pour des plus grands, je vois qu'il y a pas mal de parents qui ont des ados aussi. Quand ils sont petits, quand ils sont fâchés, souvent ils restent pas trop loin de nous pour bien montrer qu'ils sont pas contents et puis ils boudent. Et puis j'entends « t'es méchant », voilà, une phrase comme ça qui est lâchée par ma fille. Et premier réflexe qui me vient, c'est d'avoir envie de lui dire « on parle pas comme ça à son père hein, ». Et puis lui tomber dessus un peu brutalement. On s'était pas mal formé avec Virginie auprès d'un pédiatre de la communauté qui avait développé pas mal d'outils de communication avec les enfants. Donc, me souvenant de ses bons conseils, je me suis retenu juste à temps et je me suis arrêté, j'ai commencé à dialoguer avec elle. Je lui ai dit, si tu me dis que je suis méchant, c'est que tu es fâché avec moi. Voilà, j'ai commencé à reformuler ce qu'elle vivait, tout simplement. Hein. C'est l'outil, là, c'est la reformulation. Fais un peu de silence et puis après j'ai repris, tu es fâché parce que je t'ai grondé. Voilà, donc ça c'est l'explication toute simple de ce qui vient de se passer. Hein. Ça paraît évident pour nous, hein, mais pour les enfants c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Quand j'ai dit ça, tout de suite j'ai eu un flot de paroles c'était une expérience assez intéressante parce que tout de suite elle s'est complètement livrée. Elle a dit, bah oui, et puis c'est injuste parce que ma sœur elle se fait jamais gronder, c'est toujours moi qui me fais gronder, etc. etc. À partir d'une réflexion toute simple d'un enfant qui dit t'es méchant ou... un peu la façon dont moi j'avais été éduqué, c'est de dire on parle pas comme ça à ses parents. Hein, une façon un peu, il y a les enfants puis il y a les parents. Quoi. Et si on arrive à les rejoindre dans ce qu'ils vivent, quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, eh ben ça change complètement la donne avec nos enfants. C'est incroyable ce que c'est efficace lorsque, au lieu de réagir sur le champ avec nos enfants, on prend le temps de se demander mais qu'est-ce qu'il vit là, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Ça crée une confiance parce que l'enfant se sent compris par ses parents, hein, son besoin est reconnu et il peut donc passer à autre chose. On a parlé ce matin de la notion de besoin, hein, on a vu que le sentiment était comme un indicateur qui disait attention là il y a un besoin important qui n'est pas satisfait et que le simple fait de le nommer parfois ça résolvait les problèmes. Et bien avec les enfants c'est exactement pareil. Si on arrive à reconnaître leurs besoins et les aider à mettre des mots dessus, et bien ils peuvent évoluer. Il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à 4 ans, mais même bien au-delà, ne sait pas exprimer ce qu'il vit, ni ce qu'il ressent. Alors sa tentation, c'est, en tout cas quand ils sont petits, c'est de gesticuler, de bouger, de crier pour manifester qu'ils sont pas contents, qu'ils sont en désaccord. C'est pas ce qu'il vit, en fait. Hein. Donc c'est à nous, parents, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit. Comme ça, il va pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans la famille, dans la relation. Il va pouvoir mettre une distance par rapport à ses émotions et mieux les gérer derrière. En faisant ainsi, comme parents, vous posez les bases de l'apprentissage de la grammaire émotionnelle de votre enfant. On a besoin de lui apprendre cette grammaire. Et cette grammaire, après, va lui servir toute sa vie. Elle va lui servir au plan relationnel, hein, avec ses frères et sœurs, ses amis, etc. Elle va lui servir aussi quand il sera plus grand, quand il faudra qu'il fasse des choix d'orientation professionnelle, d'orientation universitaire. Pourquoi? Parce que si vous n'avez jamais appris à reconnaître ce qui vous fait plaisir dans votre enfance, si vos parents vous ont jamais appris à dire mais à reconnaître que bah ça, ouais, tu aimes bien faire cette musique là, ok, tu aimes bien cet instrument, ah bah c'est super, bah continue.